21 heures passées de quelques secondes sur Radion. Merci d'être fidèle à cette émission littéraire et de nous accueillir chez vous. Bonsoir à toutes et à tous. Au programme, une rétrospective pour fêter le 100e numéro que je vous propose. Des choix d'extraits de quelques-uns des 99 numéros diffusés à ce jour. Les choix ont été difficiles, d'autant que le temps qui nous est imparti ne nous autorise pas à saluer toutes celles et tous ceux qui ont eu la gentillesse de répondre au micro à nos questions, et ce, durant plus de 2 ans. Et puis, il ne faut pas oublier tous ceux qui facilitent les enregistrements des entretiens que nous vous proposons chaque semaine. Je voudrais saluer tout particulièrement Evelyne Philippe, qui organise admirablement à la fois les rendez-vous du Club des écrivains de Bourgogne à Dijon chaque mois, et puis bien évidemment le prestigieux salon du livre Livre en Vigne qui se tient le dernier week-end du mois de septembre au château du Clos de Vougeot. Je voudrais aussi saluer Nathalie à la maison Jules Roy à Vézelay, mais je voudrais aussi saluer les libraires. J'ai un clin d'œil par exemple très fort qui va du côté de Tonnerre pour Sylvie et Jean-Jacques Ricard, ou encore plus récemment à Laurent Equet, libraire à Vézelay. Et puis je voudrais aussi saluer et remercier les organisateurs du Salon du Livre, et n'oublions pas les éditeurs. Alors, au menu ce soir, des grandes figures de la République des Lettres, vous entendrez Noël Châtelet, Gérard Oberlé, Didier Decoin, mais aussi des auteurs bourguignons, Lucette Desvignes, Barbara Moreau, Marie-Thérèse Mutin, qui reviendra sur sa rencontre avec François Mitterrand, ou encore le Nivernais Jean-Charles Cougny, paysan écrivain qui confie son amour pour les vaches qu'il élève dans son exploitation agricole. Sans oublier le merveilleux raconteur natif de Chablis et qui réside à La Roche-Saint-Sidroine, je veux parler de Serge Moreau que vous redécouvrirez ce soir. Vous apprécierez aussi de réentendre le comédien Jean-Pierre Marielle, mais aussi l'acteur Richard Bourringer que j'avais interviewé lors du Salon du Livre de Migennes en 2011. Et puis on aura aussi un ancien ministre de l'Intérieur du gouvernement Jospin, Daniel Vaillant. Un programme riche et varié, à l'image de ce qu'on s'efforce de vous offrir chaque semaine depuis l'automne 2010 sur le 90.5 en modulation de fréquence ou en direct via internet sur le www.radion.fr. Le premier extrait retenu nous amène en Nièvre voisine, au bord du lac des Sétons. Il s'agit de la toute première émission, diffusée le 3 novembre 2010. Nous y avions accueilli Jeannine Pardonnet, agrégée de philosophie, aujourd'hui à la retraite. Elle était venue nous présenter un superbe livre consacré à l'histoire du lac des Sétons et à la vie qui s'y organisait jadis autour de ses services publics, et notamment autour de la petite école communale où notre invité a été scolarisé. Et c'est avec nostalgie que Jeannine Pardonnet se souvient de son enfance sur les rives du lac des Sétons.
J'y venais en sabots comme tout un chacun, mais je n'étais pas loin et donc je rentrais déjeuner à la maison à midi. J'étais la petite fille de la dame qui occupait le poste de chef de gare au taco des Sétons. Le taco existait à ce moment-là, il a été supprimé en 1939, mais le taco existait. Et donc j'habitais déjà la maison que j'habite maintenant, que mon grand-père a fait construire tout au bord de la ligne de chemin de fer, parce qu'il pensait qu'à la retraite, il regarderait passer le taco, et puis le taco a été supprimé en 39 dollars. Donc j'habitais tout près, j'y venais en sabots, comme tout le monde. J'avais quand même assez de petits chemins à faire pour, non pas faire l'école buissonnière, mais jouer avec les camarades de classe, les garçons, les filles. On avait des petits bouts de chemin avant d'arriver à la maison, et ce qu'on apprenait à vivre ensemble et à jouer ensemble sur ces petits bouts de chemin, je vous dis pas, la guerre des boutons, moi je connais, c'est pas seulement un livre pour moi, c'était notre quotidien, la guerre des boutons. On avait des clans. Nostalgie, si vous voulez, mais nostalgie qui a du sens. Ce dont j'ai la nostalgie, c'est de cette école qui créait vraiment du lien entre les enfants. Les parents pouvaient bien dire ce qu'ils voulaient, se disputer, s'entendre. Ça n'était pas notre problème. Nous étions une véritable république d'enfants, sous la férule du maître ou de la maîtresse pour nous.
Hein. Plutôt des institutrices.
Voilà. Ah oui, je n'ai connu que les institutrices. Ah oui, un remplaçant, mais on l'a découragé, il n'est pas resté longtemps. sous la férule du maître peut-être, mais une véritable république d'enfants qui avait ses lois, qui avait
ses règles, ses codes, ses principes édictés, et qu'on ne devait pas transgresser.
Ah non, il ne valait mieux pas. Il était absolument impensable qu'un grand n'aide pas un petit, par exemple, sur la route ou dans l'école elle-même. Il était impensable qu'on s'envoie à la figure des reproches ou des insultes.
Des mots blessants, des paroles blessantes.
Oui, qui auraient été issues de ce qu'on pouvait entendre chez les adultes. Je dis ça parce que, il y a toujours dans les relations entre adultes des bons et des mauvais côtés. Hein. Je ne veux pas dire que les Morvandiaux soient plus désagréable à fréquenter que les autres, pas du tout. Mais nous, les enfants, nous étions vraiment... nous formions un groupe extrêmement heureux et qui se fréquentait longtemps. Moi, je suis entrée à 5 ans. Hein, quand je suis arrivée dans le Morvan, là, j'avais 5 ans. Je suis entrée à l'école à l'âge de 5 ans. Et je n'en ai quitté les bancs qu'à l'âge de 14 ans avec mon certificat d'études. Attention. Parce que ma grand-mère disait, sans le certificat d'études, ma petite fille, tu feras rien dans la vie. Et à l'époque, c'était ça, le certificat d'études, c'était vraiment...
Ça sanctionnait la fin, vraiment,
des études primaires. Et quand vous quittiez l'école primaire, eh bien, vous la quittiez en sachant ce qu'il n'est pas permis d'ignorer. Là, je cite les instructions officielles de l'époque. C'était le but de l'école primaire. Hein. Il faut leur apprendre ce qu'il n'est pas permis d'ignorer. Alors, on quittait l'école primaire avec le certificat d'études qui prouvait qu'on savait ce qui n'est pas permis d'ignorer. En orthographe, en calcul, en histoire, en géographie, en sciences, etc., etc.
Mais vous étiez dans une classe unique.
Classe unique. C'est-à-dire que, à 5 ans, entre 5 et 6 ans, j'avais bien, comme tous les autres, hein, j'avais bien toujours une oreille qui traînait quand la maîtresse, comme on disait, s'occupait des enfants de 6 à 7 ou de 7 à 8. Je grappillais des informations qui n'étaient pas dites pour moi, qui étaient dites pour des plus grands, mais je les grappillais. Et puis, tel ou tel, pas très très habile à l'école, qui atteignait ses 10, 11, 12 ans, grappillait bien quelque part ce qui était dit chez les tout-petits et se rappelait des choses qu'il avait un peu oubliées. Je trouve qu'il y avait là une sorte de feutrage entre les âges, entre les classes, qui était à lui tout seul un véritable lien, y compris un véritable lien intellectuel, qui fait qu'on ne se posait pas à l'époque le problème de redouble ou redouble pas. Ça n'avait pas de sens de redoubler. Vous voyez, vous étiez en cours élémentaire première année. Alliez-vous passer en cours élémentaire deuxième année? Oui, automatiquement, mais... La maîtresse vous disait, tu viens là, en ce moment-là, tu viens à la leçon de lecture là, du CE1, vous changiez de banc, c'est tout. Vous ne redoubliez pas avec toute la honte que ça suppose dans l'esprit de tas de gens.
Janine Bardonnet, venue présenter Le lac des Sétons d'hier à demain, un très bel ouvrage richement illustré de photographies que l'on peut se procurer sur le site internet Ma Petite École, permettant d'offrir des subsides au projet qu'anime Janine Bardonnet, à savoir transformer son ancienne école communale au bord des rives du Séton en musée des écoles de hameaux. Changement de décor et de personnalité avec l'écrivain Gérard Oberlé, rencontré à Nevers en décembre 2010 au Salon des auteurs nivernais, salon aujourd'hui disparu et remplacé par le festival littéraire Tandem qui aura lieu à Nevers début février prochain. Devant le constat d'une société où les libertés se restreignent, j'avais demandé à Gérard Oberlé de nous confier ses impressions et de parler des États-Unis où il a séjourné une partie de sa vie.
Moi, je ne suis pas spécialement hédoniste, mais je suis pour qu'on foute la paix aux gens. Voilà. Alors, j'adorerais vivre dans une société où on fiche la paix aux gens, on ne les harcèle pas tout le temps pour leur vendre quelque chose, soit leur vendre leur santé ou leur bien-être, soit des conseils pour la vie éternelle ou n'importe quoi. Et tout est fliqué maintenant. La flicaille est partout.
Existe-t-il une société où l'on fout la paix aux gens, comme vous le dites?
Celle qu'on se fait soi-même quand on est romancier et qu'on emmerde les gendarmes et la maréchaussée, comme dit la vieille chanson, d'une façon d'abréger la chose. Mais c'est vrai que maintenant, de plus en plus, les gens sont victimes de toutes sortes de choses administratives, de choses morales, Moi, par exemple, je vais dans un magasin, je vois une mère avec un petit enfant. Autrefois, jamais je n'oserais caresser la tête de l'enfant pour dire qu'il est mignon, de peur qu'on ne m'arrête comme pédophile, parce que c'est comme ça maintenant. Vous ne pouvez plus du tout exprimer des sentiments qui, même autrefois, paraissaient normaux, sympathiques. Enfin, ça devient parfaitement inhumain, c'est grotesque.
Et pour vous qui, justement, aimez quand même les États-Unis, je pense à votre ami Jim Harrison.
Non, j'ai beaucoup d'amis américains parmi les écrivains, j'en ai plusieurs. J'aime les paysages de ce pays, mais je déteste l'Amérique. Je déteste profondément ce qu'elle représente, parce que je considère que c'est le pays qui a apporté dans le monde la vulgarité absolue par la pub, par le commerce. C'est quand même un pays où les gens ont l'impression de ne pas vivre s'ils ne sortent pas tous les jours acheter quelque chose, de cochonnerie, puis cette espèce d'arrogance de cette nation. Ah non, non, non.
Mais Jim Harrison, vous rapportez ses propos dans Itinéraire spiritueux, dit « L'Amérique est un pays pornographique et religieux ».
Oui, puritain et pornographique à la fois, oui. C'est le pays de l'hypocrisie la plus totale, oui. Oh non, je n'ai aucune tendresse pour la société américaine. Aucune.
Alors Jim Harrison, vous l'avez côtoyé? Vous avez des nouvelles un petit peu?
Oui, régulièrement, on s'écrit. Oui. Oh, je l'ai plus que côtoyé, parce que pendant des années, j'allais chez lui et lui venait là dans le Morvan chez moi. On a voyagé ensemble, on a fait... C'est ce qu'on appelle un copain, oui.
Alors Jean-Pierre Coff, vous adorez... Jean-Pierre Coff est un grand ami.
C'était surtout...
Vous parlez beaucoup de lui au temps de son restaurant parisien.
Oui, je l'ai connu à cette époque parce que je faisais partie d'une bande de...
La Ciboulette.
D'amis qui... nous allions là parce que c'était un endroit qui était d'abord très bon. Et puis le personnage était drôle, il a toujours été drôle. Nous, on l'a connu avant qu'il passe à la télé, mais il était déjà comme ça. C'était un homme très théâtral et inattendu. Enfin, il était et très chaleureux et très... Alors bon, l'image qu'on a de lui maintenant est un petit peu exagérée par la télé, parce que la télé exagère tout. Mais c'est un homme qui est beaucoup plus profond que l'image qu'il donne. Et ses causes sont justes. Moi, j'aime bien les raisons pour lesquelles il se bat, même si ça peut être un peu exaspérant parfois, ce côté...
Mais vous parlez de lui comme d'un gladiateur vivre. C'est une belle image.
C'est des combats qu'il mène pour... Enfin, il n'est pas le seul, mais il le fait bien. Et comme il est très écouté, je pense qu'il a son utilité.
Alors, vous rendez beaucoup hommage aux amis. Vous parlez aussi dans Itinéraire spiritueux, vous parlez de Jean Carmé.
Ah oui, il faisait partie de la même bande, oui.
Vous pourriez nous rappeler, par exemple, quand il descendait dans votre cave, il vous disait « Je vais à la bibliothèque ».
Un jour, il a... Oui.
C'est très drôle, cette comparaison. D'ailleurs, vous le dites, on peut faire une comparaison
entre
la bibliothèque où l'on range... Où l'on classe les livres et une cave bien tenue.
Où on range les bouteilles, oui. Oui, Jean était un type assez poétique, il avait une imagination très... C'était aussi un merveilleux pilier de bistrot. Et donc, quand il venait chez moi, il allait très volontiers voir ce que j'avais de neuf dans ma cave. Donc, il descendait avec un tire-bouchon et il goûtait ce qu'il ne connaissait pas, puis il ramenait, il disait « T'as prévu de nous faire ça à dîner, je pense que ça sera bien. » Oui, c'est un souvenir très émouvant de ce garçon-là.
C'était un extrait de l'émission Wagon Livre du 2 mars 2011 avec Gérard Oberlé. Un grand bonheur d'avoir rencontré cet écrivain qui habite dans le Morvan, non loin de Nevers. Première pause musicale avec François Fellman, J'ai peur. Nous, on n'a pas peur, on est plutôt heureux pour ce 100e numéro de Wagon Livre. Bonne soirée, on se retrouve dans quelques minutes pour la suite de notre rétrospective.
yeux te font mal. Traverser la pluie, tu tires le signal au milieu de la nuit.
François Feldman, en 1991, avec J'ai peur à l'instant sur Radion. La suite de Wagon Livre avec un choix des meilleurs moments puisés dans les 99 émissions diffusées depuis novembre 2010. Voici une dame que j'admire et pour qui j'ai beaucoup d'affection. C'est Lucette Desvignes, romancière, nouvelliste, poète et blogueuse. Je l'ai accueillie, c'est vrai, trois fois dans notre rendez-vous littéraire. Je vous demande de l'écouter évoquer sa passion pour les chats, si nombreux dans sa maison à Dijon. Je trouve cet extrait formidable.
Il est de fait que j'ai toujours été entourée de chats. En ce moment, j'en ai une douzaine. Je vis avec une douzaine de chats en symbiose, n'est-ce pas? Et puis, je pense que jusqu'au bout, il faudra que j'ai des chats autour de moi. J'ai déjà prévu leur destin après moi. C'est déjà tout arrangé. Comme mes obsèques sont déjà payées, mais alors mes obsèques, ça ne concernerait que moi, tandis que c'est beaucoup plus grave en ce qui concerne les chats. Donc j'ai toujours eu des chats autour de moi, j'ai toujours adoré les chats, toutes les bêtes. Je n'écrase pas les fourmis, les araignées, les guêpes, je prends les guêpes et les abeilles à la main. Je ne sais pas, j'ai l'impression que je vis dans une espèce de continuum où les insectes, les bêtes ont leur place aussi. Il y a quelque chose c'est comme une parenté entre eux et moi. Mais je ne veux pas étendre là-dessus parce qu'en plus de ça, ça pourrait être grotesque. Il y a des gens qui se mettraient à hausser les épaules. Mais ce que je veux dire, c'est que vivre avec des bêtes comme des chats, développer leur intelligence, répondre à leurs besoins de tendresse, c'est quelque chose de parfaitement enrichissant. et de les voir vivre autour de moi, de les voir se développer, s'entraîner, s'entre-détester, c'est quelque chose de tout à fait passionnant. Je dois dire que, par exemple, il y a quelques années, j'ai eu une tribu de chats, parce qu'évidemment, avec les années, les morts, les chats, non, enfin, ma ribambelle de chats n'a pas toujours la même allure, mais il y a une quinzaine d'années, quand j'allais écrire, j'avais des chats qui sentaient que j'allais écrire. Alors, ils me précédaient dans mon bureau, ils s'installaient en couronne autour de moi. Et je n'avais plus qu'à me mettre, je n'avais plus qu'à m'asseoir au milieu d'eux. Et ils se couchaient tous pendant que j'écrivais. Et au bout d'un moment, quand ils en avaient assez, ils savaient que quand je mettais les lunettes, c'était pour écrire. Alors, le chef, à ce moment-là, c'était mon Miaouchka, un chat d'une intelligence exceptionnelle, venait devant moi et avec un ongle, il me retirait mes lunettes. Il le faisait 3 ou 4 fois de suite, d'un air de dire, enlève tes lunettes, reviens sur terre, reviens avec nous, tu as assez écrit aujourd'hui.
Est-ce que, comme la petite Manette, la fillette d'un des contes, est-ce que vous parlez la langue des chats ?
Oh, mais bien sûr ! Ah, mais bien sûr, je pourrais même dire que je parle le patois de chaque chat, parce que chaque chat a une langue articulée. Par exemple, vous n'avez pas eu l'occasion de le voir, mais quand mon Django vient de dehors, quand il rentre, il vient me faire ses civilités et il me raconte des choses, il me raconte ce qu'il a fait dans le jardin. Moi, je le comprends.
Émouvante Lucette Desvigne, amoureuse de ses chats. Son dernier ouvrage est un recueil de nouvelles intitulé « Nouvelles à chuchoter au crépuscule » disponible aux éditions de Bourgogne. Eh bien, figurez-vous que le prochain invité appartient à la catégorie des « people », dirons-nous. Il s'agit d'une émission enregistrée en public au marché couvert à Avallon au cours d'une soirée organisée par le Rotary Club d'Avallon-Vézelay le 11 février 2011. Réécoutons un acteur français fameux qui a passé son enfance dans Lyon, très précisément dans le petit village de Précilsec, tout près d'Avallon. Je veux parler de Jean-Pierre Marielle. Écoutez-le nous réciter un bref poème d'Apollinaire et évoquer son amour pour la langue française.
Avec ses 4 dromadaires, dont Pedro, d'Alpha Rubera courut le monde et l'admira. Il fit ce que je voudrais faire si j'avais 4 dromadaires. C'est tout.
Et comment, oui, ça tient à quoi ?
Quoi ?
C'est 4 vers d'Apollinaire.
Bah,
où est la...
Bah, je ne sais pas, c'est d'ailleurs... C'est bourré d'humour. C'est déjà énorme. Et c'est... De l'humour en poésie, il n'y en a pas tellement. Mais avec ces 4 dromadaires, d'ailleurs, Fajero, Farouberra a couru le monde. Puis en même temps, elle admira... Il y a une désespérance, et fit ce que je voudrais faire si j'avais 4 dromadaires. C'est vraiment de la poésie, parce qu'il y a une désespérance. Hein? Si vous aviez 4 dromadaires, vous, et comme moi, qu'est-ce qu'on serait heureux. Eh oui.
D'ailleurs, vous êtes attaché à la langue française, puisque vous dites « je n'habite pas un pays, j'habite une langue ».
Oui. Ben, moi, je suis... Je suis chez moi, quand je vais en Angleterre, quand je vais en Allemagne, oui, dans tous les pays que j'aime, en Italie, tout ça. J'aime le pays, mais moi j'aime le français. Ben, oui, répétez votre phrase. Je ne suis pas amoureux d'un pays, non.
Vous disiez que vous ne... Mais oui, j'ai perdu. Vous dites... Vous dites que vous habitez une langue et non pas un pays. C'est ce que vous écrivez.
Ben oui, c'est vrai. Eh oui. J'habite une langue, je parle français, mais par exemple, quand je vais écouter Tchekhov en russe, ça me bouleverse, je veux dire. Ou je vais écouter Shakespeare en anglais, ça va.
Modiano, c'est votre ami, c'est un Goncourt, Goncourt 78. Et puis, Modiano, vous partagez le silence avec lui. Vous dites, on est capable de se promener Il va choisir juste des onomatopées, comme ça, et de faire un aller-retour.
Ah oui, ça c'est formidable, on se balade. Oui, bah oui. On va boire un verre. On va boire un verre. Où on va?
Le comédien Jean-Pierre Mariel, enregistré à Avallon en février 2011 au cours d'une soirée au profit des œuvres du Rotary Club d'Avallon-Vézelay. Jean-Pierre Mariel avait présenté son abécédaire intitulé « Le grand n'importe quoi » paru chez Kalman Lévy et qui est d'ailleurs toujours disponible chez vos libraires. En parlant de libraires, j'en reçois deux mercredi prochain, 23 janvier, à partir de 21h à bord de Wagon Livre, puisque je recevrai Evelyne Monin et Carole Amicel, les deux libraires qui ont repris la librairie Voileau à Avallon. C'est mercredi prochain, 23 janvier, sur Radion. Des hommes politiques ont parfois été conviés à s'exprimer devant notre micro. Ce fut le cas de l'ancien ministre de l'Intérieur, Daniel Vaillant, également maire du 18e arrondissement de Paris. Daniel Vaillant, né à Lormes, en Nièvre voisine, est l'auteur d'un ouvrage retraçant l'histoire de la gauche socialiste. Il m'avait reçu chez lui, dans sa maison, dans le Morvan, et avait répondu à mes questions avec beaucoup de sympathie. Notre rencontre avait d'ailleurs eu lieu avant les primaires au Parti Socialiste, et Daniel Vaillant avait expliqué pour quelles raisons il envisageait de soutenir un certain François Hollande.
Voilà pourquoi je pense qu'en 2012, il ne faut pas que la gauche loupe ce rendez-vous. Je pense que un candidat ou une candidate socialiste soutenue par les radicaux de gauche et, je l'espère, le petit mouvement des citoyens de Jean-Pierre Chevènement, même s'il y a une candidate, Eva Joly, pour les écologistes et Jean-Luc Mélenchon pour le Parti communiste, je pense que c'est les bonnes conditions qui permettent de l'emporter. Encore faut-il que les socialistes se dotent de là ou du bon candidat, qui fasse le bon parcours, qui connaisse bien l'attente des Français. Voilà, moi, dans le livre, je n'ai pas développé mon choix, parce que je ne voulais pas m'inscrire dans cette affaire des primaires que je trouvais inadapté à la France d'aujourd'hui. Ceci étant, elles sont décidées, je l'écris dans le livre, il faut qu'elles soient réussies. Maintenant que ce dispositif est en marche, j'ai choisi François Hollande, et je dis pourquoi, parce que je crois qu'il incarne, je dirais, celui qui peut faire la gagne. Et moi, je veux en 2012 que la France change, que la France se renforce, qu'elle rétablisse ses équilibres, et notamment budgétaires, mais qu'elle le fasse sur fond de justice sociale. Et je pense que Hollande est le mieux à même de battre Nicolas Sarkozy.
François Hollande a battu Nicolas Sarkozy à l'élection présidentielle 2012. Tout reste à faire maintenant. De votre côté, si vous désirez plonger dans l'histoire de la gauche socialiste, vous le pouvez en lisant 40 ans d'histoire du congrès d'Épinay à nos jours. Et c'est aux éditions de l'Archipel, sous la plume du député Daniel Vaillant, ancien ministre de l'Intérieur du gouvernement Jospin, que vous avez pu entendre il y a maintenant quelques secondes. Escale musicale en compagnie de Thierry Hazard, voici tout de suite sur Radion, Poupée psychédélique.
Elle a des bottes extensibles et une ceinture inoxydable, une mini-jupe amovible et un t-shirt biodégradable. Elle a un short réversible et des fossiles interchangeables, un bikini insubmersible et une veste en simili véritable. C'est ma poupée, mon joujou préféré, 100% matière synthétique. C'est ma poupée psyché, ma poupée psyché. Elle a des yeux irrésistibles et un sourire inaltérable, un soutien-gorge indestructible et un slip inviolable. Elle a une gaine invisible, un rouge à lèvres imperméable, une paire de seins indescriptibles et une paire de jambes interminables. C'est ma poupée, mon joujou préféré, 100% matière synthétique. C'est ma poupée, ma poupée psyché, ma poupée psyché. antique, mode à l'époque, pièce authentique. C'est ma poupée psyché, ma poupée psyché. Sur fil rechargeable, elle est quasiment inusable. Elle me fait sauter les fusibles. Elle est entièrement programmable. Ses circuits sont infaillibles. C'est ma poupée formidable. C'est mon joujou terrible. C'est ma poupée, mon joujou préféré. 100% matière synthétique. C'est ma poupée psyché. Ma poupée psyché. Spécimen rare. C'est l'œuvre unique, mode à l'époque, pièce authentique. C'est ma poupée psyché, ma poupée psyché. Délique. Elle est née dans un drugstore, elle suce son pouce quand elle s'endort. Elle collectionne les fleurs en plastique qu'elle cueille dans les champs magnétiques. Elle est née en mai 68, elle s'habille à Carnaval.
Poupée psychédélique, c'était Thierry Hazard en 1990. Autre univers, cette fois qui lui n'est pas psychédélique, puisqu'il s'agit du romanesque pur qui qualifie l'œuvre littéraire du Goncourt 77, Didier Decoin, que j'avais interviewé lors de son passage à Dijon, invité par le Club des écrivains de Bourgogne. Entretien diffusé sur Radion le 1er février 2012. L'écrivain venait alors de faire paraître chez Stock Une Anglaise à bicyclette, un roman, et Didier Decoin nous avait parlé d'anglaise, de bicyclette et de masturbation féminine.
Les femmes, sans s'en rendre compte au départ, puis ensuite elles le faisaient parce qu'elles trouvaient ça agréable, se masturbaient par le simple fait qu'elles enfourchaient une bicyclette et que la pointe de la selle se redressait d'une certaine façon, et que le frottement des cuisses, etc., etc. Et alors, c'était extrêmement répréhensible pour une femme en Angleterre de faire de la bicyclette. En France, les gens se posaient d'autres questions, les hommes, les médecins. Comment une femme qui fait de la bicyclette doit-elle s'habiller? Doit-elle porter des bloomers? Doit-elle porter des pantalons? Doit-elle porter des jupes spéciales? Et vous voyez la différence de mentalité. Alors, les Anglais, d'un côté, il ne faut pas qu'une femme monte en vélo parce que c'est de la masturbation. Et de l'autre, les Français, comment est-ce qu'une femme sera plus belle sur un vélo? C'est deux mentalités tout à fait différentes.
Alors, il faut reconnaître aussi que même les couturières qui s'adonnent au pédalage intensif sur leur machine à coudre...
Oui, on a fait des hygiénistes anglais, on fait des expériences comme ça, et voilà, je pense qu'ils avaient affaire à... Mais vous savez qu'à l'époque, quand une femme avait des mouvements d'humeur inconsidérés, on disait qu'elle est hystérique, et les médecins avaient un système, ils la masturbaient physiquement pour atténuer comme ça son hypersensualité. C'est très extraordinaire. Et c'est pas vieux, ça date, c'est la guerre de 14. Alors, les filles, elles rentraient le soir, les vélocipédistes anglaises, elles rentraient le soir et disaient à leur mari, « Ah, chérie, ce soir, non, je peux pas, j'ai une migraine. » Alors, le mari se plaignit au médecin, « Mais ma femme a beaucoup de migraines en ce moment. » Et les médecins toujours, « Est-ce qu'elle fait de la bicyclette, votre femme ?»« Oui, pourquoi ?»« Cherchez pas, c'est ça. » C'est pas du tout qu'elle file de voir conjugal à cause de la migraine, elle file de voir conjugal parce qu'elle vient déjà de s'envoyer en l'air sur la selle de son vélo.
Surprenant, réjouissant et croustillant, c'est aussi cela. Wagon Livre dans sa livraison hebdomadaire du mercredi à 21h sur l'antenne de Radion. Excellente soirée à toutes et à tous. Le sujet qui suit est différent mais absolument captivant puisque je vous propose d'entendre Noëlle Châtelet, universitaire et femme de lettres. Noëlle Châtelet que j'avais elle aussi rencontrée à Dijon à l'occasion du Club des écrivains de Bourgogne. Elle avait évoqué à notre micro l'œuvre du Marquis de Sade, une émission qui a été diffusée sur notre antenne le 25 janvier 2012. Noëlle Châtelet.
Il ne faut pas confondre Sade, l'homme, avec Sade, l'écrivain. Il ne faut pas penser que le sadisme, c'est Sade lui-même. Voilà. Il dit à plusieurs reprises dans son, dans sa correspondance, je suis un libertin. C'est d'ailleurs pour acte de libertinage qu'il va être enfermé.
Il dit, c'est ça, je suis un libertin, pas un criminel, ni un meurtrier.
Donc, toutes les horreurs...
Mais alors, pourquoi était-il en prison ?
Toutes ces horreurs qui sont décrites à n'en plus finir dans l'œuvre, dans les 15 tomes de l'œuvre complète de Sade, ce sont des fantasmes. Ce sont des fantasmagories.
Ces fantômes, ce qu'il appelle les fantômes.
Ce qu'il appelle les fantômes. Alors... Il est enfermé pour libertinage, soit. Pour un libertinage assez poussé, soit. Mais poussé comme était le libertinage de l'époque. Hein.
Oui, mais Noël Châtelet, par exemple, Jeanne, qui est enceinte, elle est molestée, contrainte de piétiner la croix et il la menace de mort.
Oui, oui, oui.
Il y a l'affaire de Marseille, c'est les fameuses dragées qui contiennent un aphrodisiaque, la cantharide.
Oui, il a failli empoisonner une catin. D'accord. Mais enfin, bon, ces actes de libertinage étaient assez répandus à l'époque, chez les aristocrates de sa trempe, sauf que Sade a pris moins de précautions que les autres et qu'il était moins puissant. Donc, il est enfermé pour actes de libertinage. Et ce qu'il faut savoir, c'est que son œuvre, cette interrogation du mal et cette espèce de complaisance qu'il met à le décrire et à le disséquer, va naître en prison.
Passionnante conversation à prolonger en se procurant entretien avec le marquis de Sade, conversation semi-fictive concoctée par Noël Châtelet chez Plomb. Si je vous dis qu'il est l'auteur de C'est beau une ville la nuit, qu'il est comédien, qu'il est français et sénégalais, son nom vous vient-il tout de suite à l'esprit ? Allez, quelques indices. Il a joué dans Le Grand Chemin, dans Après la guerre et Une époque formidable. Il a même été lauréat de deux Césars. Est-ce que vous retrouvez son nom ? Sa fille se prénomme Romane. Allez, quelques secondes de réflexion. Eh bien oui, c'est Richard Boringer que j'avais rencontré au Salon du Livre de Migennes en octobre 2011. Il était venu dédicacer les nouveaux contes de la cité perdue. Voici Richard Boringer, l'animiste, qui évoque la puissance de la nature dans un wagon-livre proposé le 7 décembre 2011 sur votre radio locale.
La nature, elle ne nous appartient pas, elle a ses propres ordres, elle réagit, elle régit sa vie, la nature, selon. On a tous cru, on a considéré que la nature comme notre propriété, et d'une certaine façon, on a cru l'avoir domestiquée, et enfin, non, la nature, personne ne l'a domestiquée, elle est indépendante, elle est puissante. C'est la force la plus puissante de toute l'histoire. La nature, elle est maîtresse du jeu, la nature. Moi, je l'aime, je suis animiste, donc la nature, pour moi, chaque caillou a une âme. Enfin bon, je ne vais pas vous faire le truc, mais je suis pas un écolo, moi, je suis un animiste, c'est différent. C'est que les écolos, ils ne parlent pas de la nature en tant qu'âme. Moi, la nature, c'est l'âme.
Et c'est pour ça que vous avez présenté cette société comme emmitouflée, recouverte par la végétation, végétation la domine. La pierre n'existe pas.
La pierre a été becquetée par la végétation. Moi, vous savez, j'ai fait un truc en rentrant de chez moi, je voulais étonner un peu mes amis et surtout avoir à la maison un petit baobab. J'ai fait la pire des choses.
Qu'avez-vous fait ?
J'ai pris un petit baobab, il était grand comme ça, et je l'ai emmené en France. Le petit baobab, petit à petit, il a bien tenté de vivre, hein, parce qu'il est africain, il a du courage, quoi. Alors donc, il a bien tenté de vivre. Sortir une ou deux feuilles et tout, mais c'était trop dur pour lui, trop dur. Donc il est mort, le petit baobab. Et donc il est devenu comme un bout de fer, tellement. Et j'avais honte d'avoir fait ça, j'avais honte, mais très honte. J'ai gardé donc ça. Et quand je suis reparti chez moi là-bas, j'ai dit à Moussa, j'ai dit, viens, on va aller le mettre dans la savane, à côté d'un grand baobab. On est parti avec les camions, ce bout de bois. C'était un bout de bois noirci, dur, c'était plus rien. Deux mois après, Moussa, il m'appelle. Je suis rentré en France. Il m'appelle, il me dit, pars. C'est incroyable. Je dis, qu'est-ce qu'il y a ? Je ne savais même pas qu'il avait... Il me dit, c'est incroyable. Il a repoussé, il est vivant, pas. Je dis, quoi ? Il me dit, il est vivant. Et il était content. Parce que... Il me l'avait pas dit quand j'étais parti avec le baobab, mais ça lui fendait l'âme. Il savait bien que le petit baobab, il aimerait pas le pays où je l'emmenais. Il le savait bien. Et là, baobab, il a, je sais pas, il a. Ouais, il a bien 2 mètres de haut. Ça sera jamais un grand baobab, mais c'est un vrai baobab.
L'écrivain, le comédien et le chanteur Richard Bohringer, que vous aviez pu entendre en décembre 2011 sur votre radio locale. On revient sur une grande figure littéraire. Née dans Lyon, à Saint-Sauveur-en-Puisaye, je veux parler de l'écrivain Colette. À l'occasion de l'exposition Colette, qui s'était tenue au musée de l'abbaye Saint-Germain à Auxerre durant l'hiver 2011, Françoise Duvernier, aujourd'hui en retraite, mais à l'époque conservateur en chef de la bibliothèque municipale d'Auxerre, nous dévoile une facette peu connue de l'auteur de la série des Claudines, ses écrits journalistiques.
Elle a d'ailleurs commencé à écrire bien avant d'entrer au matin pour le journalisme, en fait, pour les journaux. Elle a d'abord été critique musicale, alors c'est du temps de Willy. Elle écrit des critiques qui sont plus des critiques d'atmosphère, puisque évidemment elle est amatrice de musique. Elle a rencontré Fauré, Debussy, avec qui elle a lié une amitié qui durera très longtemps. Donc elle a commencé à écrire déjà, mais c'est vrai que son véritable engagement dans le journalisme date de son arrivée au Matin. Elle arrive au Matin en 1910 et elle va y rencontrer Henri de Jouvenel, qui est l'un des deux rédacteurs en chef du Matin et qui deviendra donc son deuxième mari. Et elle sera d'ailleurs amenée à quitter ce même journal le Matin lorsqu'ils divorceront beaucoup plus tard. Mais elle a effectivement travaillé pour beaucoup, beaucoup de journaux. Elle a travaillé comme critique littéraire, comme directrice de collection littéraire. Elle a travaillé comme critique théâtrale aussi. La Jumelle Noire sont par exemple des volumes qui retracent toutes ces critiques de théâtre. Voilà. Elle a travaillé pour Marie-Claire pendant la guerre.
Elle s'est même occupée de la rubrique Courrier du cœur. Ah, oui, oui. Et elle n'est pas tendre.
Non. Elle a son... Dans cette chronique Courrier du cœur... Elle a toujours le même franc-parler qui l'amène à dire ce qu'elle pense aux lectrices qui posent des questions pour leurs affaires de cœur.
Et la diversité lui sied bien parce qu'elle peut écrire des articles sur des matchs de boxe, sur une ascension en ballon, sur un premier vol en avion avec des passagers. Et puis, elle est sur le terrain au moment de l'arrestation de la bande à Bono, par exemple.
Ah oui, tout à fait. Alors, elle a été donc aussi reporter. Elle n'a pas été simplement journaliste rentrant le soir tard après un spectacle et devant écrire son papier pour le lendemain, ce qui lui était, dit-elle, parfois très douloureux et très pénible, mais ce qu'on peut comprendre. Elle a été aussi reporter sur le terrain, effectivement. Elle a été aussi au Maroc assistée au procès d'une célèbre
dépeceuse,
voilà, une femme qui, en fait, gérait en fait un petit réseau de prostitution et qui se débarrassait de certains de ses éléments en les emmurant vivants et en les faisant disparaître de cette manière. Donc Colette assiste à ça. Elle va aussi être envoyée par le journal Le Soir pour le voyage inaugural du paquebot Normandie. Et elle va donc arriver à New York où elle va se promener. Alors c'est un voyage assez court. Mais voilà, elle est très très sollicitée en tant que journaliste. Et on retrouvera d'ailleurs beaucoup de ses articles regroupés ensuite dans des chroniques, ses chroniques regroupées sous forme d'ouvrages plus tard.
Thank you.
Écrire quotidiennement, voilà une activité difficile et ce n'est pas Barbara Moreau qui nous contredira. Voici donc Gadine, comédienne et auteure des chroniques qu'elle a rassemblées dans trois de ses recueils. Elle prépare d'ailleurs un écrit toujours très fortement autobiographique sur les Moreau-Chaussettes, ses grands-parents qui ont résidé pendant de nombreuses années dans la rue de Paris. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler dans Wagon Livre. Barbara Moreau a été contrainte de renoncer à l'enseignement pour raison de santé, elle a choisi le chemin de l'écriture salvatrice et de l'espoir.
Je pense qu'il faut prendre en main son destin. Ça ne fait pas forcément guérir, on ne gagne pas forcément le jackpot, mais en tout cas, on retrouve sa dignité. On ne me regarde plus comme on m'a regardé, on ne me parle plus comme on m'a parlé. Faudrait se remettre un petit peu dans le contexte, hein. Donc je suis tombée malade en 2005. Je m'habillais en 12 ans, hein. Mon fils avait 12 ans à l'époque et je pouvais porter ses habits. Ça donne un petit peu une idée de ce qui m'est arrivé. Et puis mes indemnités d'éducation nationale ont dégringolé. On ne prenait pas en compte ma situation qui devenait vraiment catastrophique. On me répondait pas. Et puis il y a eu ce pépé. Et puis il y a eu les livres. Et puis il y a le spectacle maintenant. Donc évidemment ça change tout.
Alors on va parler du spectacle, mais d'abord Barbara, j'aimerais que tu m'aides un petit peu à comprendre. Dans quel sens il faut prendre le titre du recueil des chroniques « J'arrive sur le mode exclamatif ». Voilà. C'est un triomphe, c'est une victoire, c'est l'annonce prometteuse d'une carrière d'artiste qui va continuer.
Alors, je crois que c'est deux choses. C'est le point d'exclamation de l'enthousiasme, parce que je suis malade, je suis toujours malade, hein, mais j'ai jamais été aussi bien dans ma vie, parce que grâce entre guillemets à cette maladie, je peux réaliser mes rêves, hein, des rêves que je portais en moi certainement depuis toujours, mais dont j'avais pas véritablement à ce point-là conscience. En tout cas, j'avais pas vraiment conscience de ma capacité à réagir, de mon talent. Je savais pas que je pouvais écrire des livres comme ça. Donc j'arrive, c'est l'enthousiasme. J'arrive, je vais concrétiser un projet. Je vais vivre enfin ce pourquoi je suis faite.
Et c'est aussi le défi.
J'arrive en Nièvre. Et c'est aussi un défi, hein. Attention, j'arrive et j'ai une revanche à prendre sur...
Mais sur qui ? Sur quoi ?
sur ce que je disais tout à l'heure, sur la maladie, sur l'isolement. J'arrive. Et puis aussi sur... J'ai quelque chose à prouver. Je suis partie donc avec rien. Je n'ai pas de relation dans le monde du spectacle. J'ai accroché une carte Michelin au mur et puis j'ai pris mon téléphone. Je me suis fabriqué un petit décor de théâtre vraiment avec les moyens du bord et avec les conseils de quelques copains. Donc tout est vraiment fait de façon simple et sobre, et je prétends avec ça, avec rien, m'en sortir, vivre de tout ça et m'imposer en tant qu'artiste. Donc c'est un sacré défi, et puis si je gagne, ça veut dire que c'est quand même une bonne nouvelle pour la société. Ça veut dire que avec rien, on peut encore en 2011, on peut encore réaliser un rêve. Un rêve de saltimbanque.
C'était Barbara Moreau, alias Gadine, à notre micro. Je fais d'ailleurs un gros bisou affectueux à Barbara Moreau parce qu'elle est une des fidèles de Wagon Livre. Je sais qu'elle écoute quasiment tous les numéros de Wagon Livre. Je rappelle d'ailleurs que si vous ratez les numéros de Wagon Livre, vous pouvez très facilement les retrouver sur le site internet de Radion, dans la rubrique podcast. Vous cliquez Wagon Livre et vous avez alors les 20 dernières émissions disponible à l'écoute ou en téléchargement. Le prochain extrait va nous permettre de réentendre un auteur fort sympathique. C'est un paysan écrivain bien connu en Bourgogne, peut-être encore plus dans la Nièvre natale. Il a obtenu le prix littéraire du Morvan en 2010 pour Clair de Lune à Walpé et nous l'avons reçu à deux reprises sur les banquettes de Wagon Livre. Il est aussi rédacteur au magazine Vent du Morvan. Il s'agit de Jean-Charles Couny qui évoque son amour et son respect pour les vaches qu'il élève dans son exploitation à Poil, petit village de la Nièvre.
De toute façon, moi je le dis toujours, le jour où perdre un veau ne me fera plus rien, j'arrêterai le métier. Parce que, vous voyez, cette année on a perdu un seul veau, il est né mort. C'est-à-dire c'est un jumeau qui n'était pas dans le bon sens, donc il n'a même pas vécu. Mais de voir ce veau sans vie, ça me fera toujours quelque chose. Changer une vache qui part, même un taureau qui est méchant, qui m'a foncé dessus, une vache qui m'a foutu un coup de pied, de toute façon, moi, ça me fera toujours quelque chose. Je veux dire, pour moi, mes vaches, elles ont tout un nom, je sais le nom de leur père, de leur mère. Moi, je les aime, mes vaches. Quand j'étais un peu plus jeune, il m'arrivait, quand une me donnait un coup de pied, de lui donner un coup de bâton. Maintenant, j'ai vraiment le réflexe, quand une vache me donne un coup, de réfléchir, de me dire pourquoi elle m'a donné un coup de pied, c'est sûrement de ma faute. Voilà, maintenant, je me dis, ces bêtes-là, finalement, on n'a aucune raison, je veux dire, elles nous font vivre. Et puis, bon, moi, c'est des bêtes que j'aime. J'aime beaucoup mes vaches. Bon, je sais qu'il faut les vendre pour vivre, mais c'est vraiment le beau côté de mon métier. Moi, être sur un tracteur, être sur mon ordinateur à remplir des fiches, tout ça, c'est pas mon truc. Je le fais, hein. Mais ce qui me plaît, moi, c'est de voir naître un veau. Ce serait vraiment... Ou même voir un veau bien en état, ou le matin, vous voyez, le matin, quand je vais voir mes vaches dans les prés, que je les vois comme en ce moment, dans l'herbe, contrairement à ce qui était le cas au printemps, pour moi, c'est un bonheur, c'est...
Mais vois-tu, Jean-Charles, on ressent cette émotion, cet amour de la bête, ce respect de l'animal, quand on te lit.
Ben, c'est dans un sens, bon, je suis très content qu'on me le dise, parce que au fond, c'est ce que je veux transmettre aux gens. Je veux montrer que on ne fait pas ça uniquement pour toucher des primes, on ne fait pas ça uniquement pour gagner de l'argent, pour rembourser le crédit agricole.
Un entretien enregistré à Saint-Honoré-les-Bains est diffusé le 12 octobre 2011 dans Wagon Livre, à l'occasion de la parution du roman de ce paysan écrivain, roman intitulé « La Parisienne ». C'était donc le paysan écrivain Jean-Charles Couny qui devrait publier cette année un nouveau roman. On aura sans doute l'occasion d'en parler dans notre émission. Un autre invité tout aussi passionnant, nous l'avions reçu à l'occasion du Printemps des Poètes 2012. Il s'agit de Serge Moreau, auteur aux éditions de l'Armançon d'un petit dictionnaire atypique des poètes de langue française. Dans cet extrait, le raconteur Serge Moreau rappelle que Charles-Louis Potier, auteur d'un bon millier de chansons, est originaire de Noyères-sur-Serein.
Alors là, je vous vois venir, c'est pas 2000, c'est plus de 2500, paraît-il, et je tiens ça de sa petite fille, qui est l'une de mes amies, c'est Charles-Louis Potier, dont une plaque commémore le souvenir sur une place à Noyères, à côté de la pharmacie. C'est facile pour les gens qui vont à Noyères. Et Charles-Louis Potier, je l'ai très très bien connu, c'était un ami de ma famille, c'était le cousin d'amis, etc. C'était un homme de Noyères qui a passé tous ses étés à Noyères et qui a passé le reste du temps, l'hiver, la saison, à Paris. Alors, il s'est mis à écrire des chansons dès 1914, dès la guerre. Il n'a pas été mobilisé parce qu'il avait des yeux très malades, des pauvres yeux, il voyait mal. Et il s'est mis tout de suite à faire des chansons, et il a fait d'abord des chansons d'époque, qui voulait que des chansons un peu patriotiques, où le Kaiser, le fameux Kaiser, venait dans les maisons manger des petits enfants, des trucs comme ça. C'était très à la mode, pourvu qu'on tape sur la gueule des boches, ça faisait plaisir à tout le monde. Et puis après, la guerre s'est arrêtée, et il s'est mis à écrire des chansons comiques, surtout comiques. Je ne vais pas vous les citer, j'en ai au moins 25 dans ma tête. Et puis, comme ça arrive souvent, et ces gens-là, ils sont connus comme producteurs comiques. Et puis, d'une manière inattendue, ils vont faire un chef-d'œuvre qui n'est pas comique lui-même, mais il va plutôt faire pleurer tout le monde, puisque c'est...
Les Roses Blanches.
Voilà, voilà.
Alors, on peut mentionner aussi, bon, l'Hôtel des Trois Canards, mais qui connaît cette chanson? Moi, je la connais.
Bon, connaissez-vous bravo. L'hôtel des Trois Canards?
Bon. Coin, coin.
Exact, Serge.
Oui, ah ben je vais bien. Ça, c'était Marie Dubas qui chantait ça.
Et puis, il y a aussi quand même la célèbre chanson Félicie.
Si, aussi. Et oui. Voilà, que Fernandel a immortalisée. Et puis, il y a d'autres chansons aussi qui ont bien marqué, bien marqué. Dont une qui est plutôt poétique. C'est « On n'a pas tous les jours 20 ans ». Et c'est devenu presque un proverbe. Et c'est la marque d'une grande qualité. Quand un monsieur en 4 mots, 5 mots, met un vers pareil, eh ben il mérite une statue.
Serge Moreau, au micro. Son petit dictionnaire atypique des poètes de langue française, 3 ans de travail et plus de 500 poètes et chansonniers référencés, une véritable mine d'informations, un ouvrage toujours disponible chez vos libraires aux éditions de l'Armançon. Le Printemps des Poètes, 15e édition, se tiendra cette année du 9 au 24 mars prochain et le thème retenu est « Les voix du poème ». Elle réside non loin de Dijon et elle a créé les éditions Mutine en 1995. Ancienne institutrice, très engagée au Parti Socialiste, elle fut la première femme secrétaire de la Fédération PS de Côte d'Or, conseillère régionale et députée européenne, s'il vous plaît. Un témoignage devant notre micro où Marie-Thérèse Mutin évoque sa rencontre avec le premier secrétaire du PS, François Mitterrand.
Avant l'entrée en commission des résolutions du congrès de Metz en 1979, la commission des résolutions au Parti Socialiste, c'est celle qui va essayer de trouver un accord entre les différents textes et qui se réunit la nuit. Donc on était... Là, j'étais dans cette commission des résolutions pour le quota féminin, hein, parce que il y avait très peu de là, j'étais la première secrétaire d'une fédération, hein, bon, et j'étais au comité directeur, on était très peu nombreuses à l'époque, donc on m'avait mis dans la commission des résolutions de ce fameux congrès. Et donc on mangeait un peu avant d'entrer en réunion. Et on était en train de manger, Mitterrand arrive en retard, comme il était très souvent, et il s'installe à la table à côté de Jox, et puis au bout d'un moment, Jox lui dit « Mais vous n'avez rien, vous ne mangez pas ?» Il dit « Si, j'ai demandé une quiche, mais j'ai demandé qu'on me la chauffe. » Donc, alors on continue à discuter, un bâton rompu, et puis au bout d'un moment, il dit « Ah, oh, ben c'est bien long à chauffer cette quiche, Marie-Thérèse, vous voulez pas aller voir ?» Et moi, alors... il y a toujours eu de la provocation de la part de Mitterrand à mon endroit, parce qu'on s'est toujours un peu frité. Et j'ai dit, mais pourquoi moi? Pourquoi pas Jox? Alors, Mitterrand, ça l'a fait sourire, quoi. La tête de Jox, je ne l'ai pas décrite hein, dans le livre, mais bon. Et puis, il se retourne vers Edith Cresson et lui dit, Edith, vous voulez y aller? Et Edith se lève et elle y va. Ah ben voilà. Alors, j'étais en colère contre Edith. Et Mitterrand ajoute, il y a qu'Edith qui Yvette-Roudy ne m'a pas pourri. Yvette-Roudy étant secrétaire aux droits de la femme à l'époque, ministre, non, secrétaire aux droits de la femme à l'intérieur du PS, voilà.
Marie-Thérèse Mutin, l'expérience socialiste, François Mitterrand, est-ce qu'on peut vous demander un point de vue, un souvenir sur François Mitterrand?
Ah, François Mitterrand, c'est l'homme qui m'a complètement fasciné intellectuellement. Et c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Quelqu'un d'extraordinaire. Alors, je sais bien que tout un tas de choses ont couru sur son compte, mais pour moi, il est celui qui a réuni la gauche. Et ça, c'est pas une mince affaire. Et qui nous a permis de vivre cette épopée dont je parlais tout à l'heure. Et ça, c'est un grand, grand souvenir. Je lui en suis très reconnaissante.
Entre chien et loup, c'est le titre de l'autobiographie de Marie-Thérèse Mutin que vous venez d'entendre à l'instant, évoquer François Mitterrand sur Radion. Notre rendez-vous touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi ce 100e numéro de Wagon Livre. Je vous retrouve la semaine prochaine en compagnie des deux nouvelles libraires d'Avallon, Evelyne Monin et Carola Missel, qui ont des projets pour l'ex-librairie Voileau qu'elles viennent de reprendre. Nous en saurons plus avec elles mercredi 23 janvier prochain à 21h sur Radion. Et puis le 30 janvier, je vous proposerai un entretien avec Éric Fotorino, l'ancien directeur du quotidien Le Monde. Excellente fin de soirée à toutes et à tous. Merci de votre écoute fidèle et attentive. À mercredi prochain. Au revoir.